Dieu a mis vraiment quelque chose sur mon cœur pour, par rapport à ce matin et au message que je devais partager. Je le traduis au travers de petites complications, vous voyez, des fois, quand les choses ne se passent pas comme on voudrait. Seigneur, tu as peut-être quelque chose à délivrer à ton peuple. Et vraiment, ce matin, je viens avec un texte, une pensée particulière sur mon cœur que je vais étayer. Mais permettez-moi, avant d'aller plus loin dans mon message, de faire une petite introduction. Une introduction qui est en lien avec des parallèles que nous trouvons dans les Écritures. Des parallèles qui sont édifiants, intéressants. Le premier parallèle que je voudrais faire ce matin, c'est entre deux personnages bibliques. Nous connaissons Élie, le prophète. Et mon parallèle, je voudrais associer cet homme de Dieu au prophète, parce que je pense et je crois vraiment que c'était un prophète, le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et le prophète Élie. Et souvent dans les Écritures, on les associait. Le prophète Élie était connu pour avoir un ministère qui s'est manifesté et exercé au travers du jugement de Dieu. Dieu s'est servi d'Élie pour accomplir son jugement. Et dès le début, Élie a été utilisé de cette façon-là. Lorsque nous entendons la première fois parler du prophète Élie, c'est dans le livre des Rois, la première fois nous le voyons arriver devant le roi Acab et lui dire « Il ne pleuvra plus tant que je n'aurai pas prononcé la pluie ». Et tout au long du ministère d'Élie, on voit cette puissance qu'Élie va développer pour exercer le jugement de Dieu. Et vous avez certainement en tête sur le mont Nebo, quand à un moment donné, Dieu va se servir d'Élie pour régler ses comptes avec les prophètes de Baal. Et lorsqu'on regarde le prophète Jean-Baptiste, celui qui est venu juste avant Jésus, nous retrouvons non pas le mystère de puissance qu'Élie avait, mais nous retrouvons la même passion, nous retrouvons le même caractère, le même ministère qui s'est exercé au travers du jugement de Dieu. Et lorsqu'on lit les textes en rapport avec Jean-Baptiste, on retrouve ce même esprit. Lorsqu'il lit, à un moment donné, il parle aux pharisiens, aux scribes, et qui leur dit « race de vipères, repentez-vous ». Et on retrouve le même caractère. Même Jésus va le souligner, parce que Jean-Baptiste était annoncé par les prophètes. Et à la fin, lorsque Jean-Baptiste est mort, je ne suis plus trop dans les détails précis, mais Jésus va honorer Jean-Baptiste. Et en l'honorant, il va dire quel était le rôle de Jean-Baptiste dans l'histoire. Et il va l'identifier de la façon, celui-là, vous avez lu dans les Écritures, il va le dire de cette façon-là, plus ou moins. Il va dire, mais dans les Écritures, vous avez entendu qu'Élie devait me précéder. Et Jésus va dire, Élie, c'était Jean-Baptiste. L'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. Alors, c'est un parallèle intéressant. Maintenant, on pourrait passer à côté d'un autre parallèle que je trouve tout aussi édifiant et intéressant ce matin. Ce parallèle est en lien avec Élisée, le successeur d'Élie. Et vraiment, Élisée, là encore, est un homme remarquable. À bien des égards, je trouve très intéressant qu'en effet, il a eu ce ministère de puissance. Même quand Élie va s'en aller dans le chariot de feu, Élisée a dit à Élie, « Mais je veux une double portion de ta puissance. » Et Élie va lui dire, « Mais tu demandes quelque chose de difficile. » Et à la fin, lorsqu'Élie s'en va, Élisée va voir son maître Élie s'en aller et le vêtement va tomber. Et parce qu'il a vu son maître s'en aller, qu'il a récupéré le vêtement, il est dit qu'il va récupérer cette puissance. Et en effet, Élisée, comme Élie, était des ministères de puissance, mais manifestés de façon différente. Si Élie a manifesté cette puissance au travers du jugement, Élisée, lui, l'a manifesté au travers de la grâce et de la bonté. Et ces deux ministères qui sont différents, et c'est en ça, à mon sens, que la double portion prend du sens. Parce qu'on pourrait voir le fait que la double portion du ministère d'Élisée s'est manifestée dans le fait qu'il a doublé, il a fait le double de miracles. C'est vrai. Mais à mon sens, le ministère d'Élisée avait un cachet supplémentaire, une onction particulière, parce que dans son ministère, il n'a pas jugé comme Élie a jugé, mais il a apporté la grâce et la bénédiction au travers de son ministère. Aussi sur le mont Nebo, quand Élie règle ses comptes avec les prophètes de Baal, Élisée, lui, en face de Naaman, qui était un général d'une armée ennemie d'Israël. Et comprenez bien le contexte, c'est un général qui a fait du mal à Israël. Quand ce général se pointe devant Élisée, Élisée ne règle pas ses comptes avec lui. Par contre, il le guérit de la lèpre. Et c'est là qu'on voit la différence entre ces deux ministères de puissance. Un qui a manifesté la puissance pour redresser, un qui a manifesté la puissance pour révéler la grâce et l'amour et la miséricorde de Dieu. Maintenant, le parallèle que je vais faire, et peut-être vous commencez à discerner les traits de ce que je veux dire, dans le ministère d'Élisée, on voit Jésus. Non ? Moi, je vois Jésus. Et voyez le parallèle qui est juste édifiant. Si Élie est l'image, on retrouve l'image, si Jean-Baptiste est l'image du prophète Élie, dans le prophète Élisée, nous voyons l'image de notre Seigneur Jésus, qui n'est pas venu pour condamner ce monde, mais qui est venu le sauver. Aussi, lorsqu'on regarde profondément les textes, quand on regarde et on met en parallèle c'est tous ces hommes, et on met en particulier un parallèle entre Jésus et Élisée, on se rend compte que ces deux hommes, que ces deux ministères ont eu des points communs juste extraordinaires. Permettez-moi d'en développer quelques-uns. Élisée a guéri le lépreux. Jésus en a guéri 10. Élisée, et c'est dans le livre des rois, et on peut être étonné de ça quand on ne connaît pas bien les histoires, mais Élisée a multiplié les pains. Jésus a fait de même. Élisée comme Jésus vont ressusciter des morts. Et ça, c'est ce qui est glorieux. Et permettez-moi de donner un autre parallèle. Et même dans la mort, ils vont donner la vie. Rappelez-vous, lorsqu'Élisée va mourir, et le texte dit Élisée va mourir de la mort dont il était atteint, on va l'enterrer, et à un moment donné, un homme qui était en train de mourir va tomber dans la tombe, pas très loin de la tombe, il va toucher les os d'Élisée, oui, il était mort déjà, et il va ressusciter. Et voyez l'image, parce qu'au travers de la mort de Jésus, nous avons la vie. Et là encore, nous voyons un parallèle très intéressant. Quelques autres parallèles, et je vais en donner un qui m'a juste édifié dernièrement, lorsque Jésus s'adresse à Bartimée. Rappelez-vous ce mendiant aveugle qui est au bord de la route. Jésus va entendre Bartimée crier « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David !» Et là, Jésus va lui demander d'approcher, et ce mendiant aveugle qui s'approche de Jésus, et Jésus va lui poser une question. Quelle est-elle ? « Que veux-tu que je fasse ?» C'est peut-être plutôt évident là, Seigneur. Mais vous savez quoi ? Élisée va faire pareil avec une femme qui venait de perdre son mari, une femme de fils de prophète qui vient de perdre son mari, elle se retrouve avec deux enfants, j'en parlais il y a 2 semaines en arrière, et cette femme vient au pied d'Élisée, elle dit « Élisée, voilà, mon mari est mort, et tu sais combien mon mari était fidèle, maintenant j'ai 2 enfants et puis j'ai des créanciers qui sont à la porte, Élisée, fais quelque chose !» Qu'est-ce que va dire Élisée à cette femme ?« Que puis-je faire pour toi ?» C'est peut-être encore évident là, Seigneur, je viens de te demander la solution, hein. Si je te le demande, c'est que je ne l'ai pas. Dans les expressions même de ces deux personnages, nous retrouvons des concordances juste extraordinaires. Et puis permettez-moi un autre parallèle juste extraordinaire. Nous savons que le premier miracle de Jésus fut celui de Cana, lorsqu'il va changer l'eau en vin. Et en effet, cette histoire, nous la connaissons par cœur, mais si Jésus a changé l'eau en vin, il faut savoir qu'Élisée, lui aussi, a changé l'eau en quelque chose. Oui. Et c'est peut-être étonnant de dire les choses de cette façon-là, mais oui, Élisée va changer l'eau en quelque chose. Et c'est le texte que Dieu a mis vraiment sur mon cœur pour nous ce matin, et que j'aimerais lire avec vous, dans 2 Rois, chapitre 4, verset 38. Ce texte-là, nous le connaissons, et peut-être vous l'avez déjà lu, peut-être vous l'avez déjà étudié, mais permettez-moi d'amener un regard un petit peu différent pour comprendre là où Dieu veut nous amener. Et ce texte, et commence dans un contexte particulier. Élisée était un ministère itinérant, c'était un prophète. Et bien souvent, il allait où on avait besoin de lui. Et Élisée est parti voir la femme tsunamite. Cette tsunamite qui venait de perdre son enfant. Tout un texte très intéressant, mais triste, vraiment horrible, triste. Et cette femme venait perdre son enfant. Et Élisée va venir au secours de cette femme, va guérir cet enfant. Et Élie rentre de cette mission, rentre de cette résurrection, et il arrive à Gilgal. Et c'est là que le texte prend part. Et nous commençons cette lecture dans 2 Rois, chapitre 4, verset 38. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Permettez-moi de rester quelques instants déjà là-dessus, parce que c'est quand même assez édifiant lorsqu'on met les choses en perspective. Gilgal, Gilgal est quelque chose de significatif pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas un détail en passant. Gilgal, c'est une étape historique pour Israël. Quand, sous la houlette de Josué, Israël va traverser le Jourdain, il va arriver à Canaan, c'est à Gilgal la première fois qu'ils vont s'installer. C'est à Gilgal que, historiquement, l'Israël va établir son premier campement dans Canaan. Le premier campement d'Israël dans le pays de la promesse, c'est Gilgal. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer à Gilgal, qui a marqué tous les esprits, qui a marqué Israël de manière globale, parce qu'ils vont vivre quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. Et c'est le texte suivant. Josué chapitre 5, verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé, et notez bien ça, du pays. Ils sont à Gilgal. Et ils vont manger du blé du pays. Et mettez tout ça en contexte, en perspective, parce qu'on ne se rend pas bien compte. Nous sommes issus, nous arrivons dans un contexte particulier où ils ont passé 40 ans dans le désert. C'est une nouvelle génération. Ils n'ont jamais mangé autre chose que des cailles et de la manne. Et quand ils arrivent à Gilgal, ils découvrent la nourriture qui est produite de la terre. Ils découvrent le blé. C'est quelque chose qui est complètement nouveau pour eux. Et ils vont manger du blé du pays. C'est ce qu'il dit le lendemain de la Pâque, des pains sans levain. Et avec du grain rôti, ils mangèrent ce jour-là. Et notez bien verset 12 qu'il est dit, la manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Autrement dit, lorsqu'on parle de Gilgal dans la tête du peuple d'Israël, on parle du pays d'abondance, on parle du pays où Dieu a béni, on parle où Dieu a prévu une terre suffisamment fertile pour bénir son peuple. Aussi, tellement elle est fertile, tellement elle est riche, les premières fois qu'ils s'installent à Canaan, les premières fois où ils arrivent à Gilgal, il y a suffisamment de nourriture pour nourrir 2 millions de personnes. Comme ça! Nous retournons 400 années plus tard, un peu plus que ça même. Des siècles plus tard, et nous arrivons à ce fameux texte où Élisée arrive à Gilgal. Et là, on apprend une chose complètement hallucinante. Cette terre qui a été riche en bénédictions, maintenant, c'est devenu une terre de famine. Il est difficile de passer à côté de quelque chose que nous sommes tous appelés peut-être à vivre à un moment donné. Vivre la promesse, vivre dans Canaan, vivre les promesses que Dieu nous a réservées, avoir traversé le Jourdain, et vous savez que traverser le Jourdain, c'est l'image du baptême. Et Paul va en parler. Ils ont traversé le Jourdain, qui est pour nous l'image du baptême, la mer Rouge. Tout ça, c'est une image spirituelle. C'est le fait de s'être engagé avec Dieu, d'avoir décidé de marcher à la suite de Dieu. On peut être dans cette dimension de foi, dans cette dimension d'obéissance, dans ce disciple-là, et vivre une famine spirituelle. Et peut-être ce matin, je voudrais insister là-dessus, peut-être au milieu de nous, il y a des questionnements par rapport à ça, où tu as le sentiment de faire ce que tu as à faire, où tu as le sentiment d'être quelqu'un qui suit le Seigneur, d'être un enfant, une fille de Dieu, d'être un petit prophète, un enfant des fils de prophètes, et être dans le pays de la promesse et avoir le sentiment de vivre une famine. Une famine qui peut prendre plusieurs aspects dans ta vie, une famine spirituelle, une famine matérielle, une famine émotionnelle. Peu importe la famine que tu vis, mais il y a comme quelque chose qui est incohérent en toi et qui t'amène à dire, Seigneur, je suis dans Canaan, où est ta bénédiction? Parce que quand je regarde Canaan, quand j'en ai la compréhension, quand on l'étudie dans les textes, quand on regarde ta parole, on peut se dire, mais Seigneur, c'est le pays de la promesse, c'est ce que je suis censé vivre. Quand je la vois de loin, quand je la regarde de loin, je me dis, c'est extraordinaire. Et puis quand j'y suis, je ne comprends pas. Et la première question qui vient dans notre cœur, c'est de dire, je suis dans Canaan, j'en ai la conviction, et pour autant, c'est la famine que j'y vis. Et cette question qui peut-être trouble ton cœur ce matin, mais où est passée ta bénédiction, Seigneur? Où est-elle? Permettez-moi d'y répondre brièvement au travers de la suite de ce texte. Parce que si Dieu a envoyé Élisée à Gilgal, c'est pour une bonne raison. Et voici ce que nous dit la suite. 2 Rois, chapitre 4, verset 38. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, et c'est Élisée là, Élisée dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Il y a tout un contexte qui nous échappe dans ce texte. Et permettez-moi de creuser un peu plus pour nous aider à comprendre. Les raisons qui ont poussé Élisée à venir à Gilgal sont pas forcément très claires, mais on le comprend un peu plus loin. À Gilgal, il se passait juste quelque chose d'extraordinaire. C'est l'une des premières écoles bibliques des Écritures. Et cette école biblique, elle était composée de fils de prophètes, des hommes qui étaient appelés à servir Dieu, des hommes qui avaient reçu un appel. Alors, fils de prophète, est-ce que ça voulait dire qu'ils étaient fils et précisément, ou est-ce qu'ils étaient les successeurs? En tout cas, c'était des hommes qui étaient appelés à servir Dieu. Et à Gilgal, ils ont décidé d'établir l'une des premières écoles bibliques. Et Élisée était sans doute un de ces enseignants, un homme de Dieu qui sans doute avait quelque chose à transmettre à ces jeunes, et ses futurs ministères. Et nous nous retrouvons dans une de ces salles ou dans un de ces contextes où Élisée, enseignant, vient enseigner à ces jeunes, ce que moi j'appelle des bébés prophètes. Ils sont en formation spirituelle théologique. Et Élisée est en train de dispenser son cours. Regardez le texte, il nous est dit ceci, comme les fils des prophètes étaient assis devant lui. Ce n'est pas une position normale, parce que quand un maître, quand un maître enseigne, en général, il y a une position, une posture différente. Mais là, on sent Élisée qui est positionné et certainement qu'il était en train d'enseigner aux fils des prophètes qui étaient en face de lui. Et là, alors qu'il est en train d'enseigner, alors qu'il est en train d'apporter la parole et qu'il est sans doute assez vigoureux, hein, parce qu'il croit en ce qu'il dit, il croit en la puissance de Dieu. À un moment donné, il se tourne vers son serviteur et lui dit « Hey, mets le grand pot sur le feu, on va faire une soupe !» L'une de mes premières années à l'école biblique a été marquée par quelque chose d'exceptionnel. Alors, je vous donnerai l'adresse pour ceux que ça intéresse. Hein. Par ma perte de poids extraordinaire. Je crois que j'ai perdu 5 à 6 kilos en un mois, pour la simple et bonne raison, c'est que nous ne mangeons pas à notre faim. Et j'ai découvert quelque chose de remarquable après une longue journée de travail à l'école biblique où nous étudions beaucoup et nous faisions plein de choses sur le centre. Je me rappelle de cet après-midi où, à un moment donné, un des enseignants qui avait l'habitude de nous enseigner, en particulier le Saint-Esprit, Johnny White, était là et apportait un enseignement sur le Saint-Esprit. Alors, vous savez, on est dans une école pentecôtiste, alors quand on parle du Saint-Esprit, waouh, c'est le feu, quoi. Et il exposait avec feu et puissance. Seulement moi, j'avais faim. J'étais fatigué. Et je me suis rendu compte que quand on a faim et qu'on est fatigué, on ne tient pas. Et ce qui s'est passé, alors que Johnny est en train de prêcher avec ferveur et puissance, moi, je me suis endormi. Mais je me suis vraiment endormi. Pour le coup, je n'étais même pas en train de somnoler. La seule chose que je me rappelle, c'est Johnny poser sa main sur mon épaule et voir toute la classe rigoler. Moi, je vais vous dire, c'est plus ou moins ce qui s'est passé ce jour-là quand Élisée a commencé à enseigner. À partir de ce jour, Johnny White, le responsable, est allé voir la cuisine, il leur a dit « Faites un peu plus à manger, ils ne tiennent pas. » Je l'ai béni ce jour-là. C'est exactement la même chose. Élisée est en train de prêcher, est en train d'être dans un message avec ferveur, en train d'enseigner les étudiants. Et alors qu'il enseigne les étudiants, ils sont tous en train de piquer du nez. Vous savez quoi? Parce qu'il y avait une famine. Ils n'avaient peut-être pas mangé depuis des jours. Ils étaient affamés. Et si, je peux vous dire une chose, hein, si manger beaucoup vous fait dormir, manger pas assez vous fait dormir aussi. Et il les voit piquer du nez aussi, il arrête le cours. Il dit à son serviteur, wow, on va pas plus loin, ça sert à rien, de toute façon ils écoutent rien. Prépare la soupe. Va chercher la marmite, mets-le sur le feu et prépare le bouillon. Et en fonction des traductions, vous avez soupe. Oui. Seulement, ce qu'Élisée est en train de demander à son serviteur, c'est juste énorme. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que les étudiants, les bébés prophètes, les fils des prophètes, ne mangeaient pas parce que, c'est pas parce qu'ils faisaient un jeûne, mais c'est qu'ils vivaient la famine, ils n'avaient rien à manger. Et peut-être depuis plusieurs jours, ils ne mangeaient pas. Et comprenez, cette école biblique était très grande, enfin, ils étaient plus d'une centaine à assister à ce cours. Et quand Élisée, dit à son serviteur, prépare la soupe, moi, je me suis dit, mais attends, Élisée est un ministère itinérant. Il n'habite pas là-dedans. Il n'habite pas dans cette école. Il vient juste donner un coup de main parce qu'ils ont besoin d'être enseignés et formés. Et je me suis dit, mais avec quoi il va préparer la soupe? Parce qu'on vit la famine. Et je veux dire, c'est pas comme si à un moment donné, il sort un petit sandwich de la poche, il dit voilà, on va le partager, ils sont plus d'une centaine. Vous me suivez toujours? Alors, maintenant, réfléchissez avec moi. Si Élisée est invité et qu'il n'est pas chez lui, d'où il sort la nourriture pour faire un potage pour 100 personnes? Et maintenant, je vais aller plus loin. À votre avis, quelles têtes vont faire les bébés prophètes quand ce prophète qui est invité chez eux? Et eux qui savent très bien qu'il n'y a rien à manger. Parce que je peux vous dire une chose, si les prophètes, on les avait entendus, peut-être ils nous auraient dit, tu sais, Élisée, si on avait eu à manger, si on avait eu un cube de magie, vous connaissez les cubes magie, là, de bouillon? Si on avait eu un cube de magie, on l'aurait mis dans la casserole nous-mêmes, et puis on aurait pris les restes de légumes, s'il y en avait eu, et on les aurait mis dedans. Et puis si on avait eu un peu de bidoche, on l'aurait mis aussi. Et le bouillon que tu veux préparer, on l'aurait préparé avant même que tu le dises. Seulement, Élisée, la famine, elle est là, il n'y a rien à la maison. Alors la bonne question est de se dire, avec quoi, Élisée, tu vas préparer ta soupe? Parce que nous qui habitons ici, qui vivons la famine, ta soupe, je ne sais pas d'où tu la sors. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce texte. C'est qu'Élisée, alors qu'il est invité, alors qu'il n'a pas idée de ce qu'il y a à la maison, alors qu'il est juste invité, qu'il est là, va voir son serviteur et va lui dire, hey, prépare la casserole, mets-la sur le feu, on va préparer un bouillon. Et la question, à mon avis, de ces bébés prophètes, avec quoi, Élisée, tu vas préparer cette soupe? Parce qu'il n'y a rien. Parce que c'est la famine. Et que s'ils piquent du nez, ce n'est pas parce qu'ils ont décidé de faire un jeûne et prière. Hein. C'est parce qu'il n'y a rien à manger. Ce que je trouve extraordinaire, c'est la réaction du serviteur. Parce que lui, il suit Élisée, et puis quelque part, quand il arrive chez les prophètes, il ne sait pas plus qu'Élisée est son maître. Et quand Élisée lui dit, bah, va préparer la casserole, et comprenez, cette casserole, elle ressemble plutôt au chaudron de Panoramix. Vous voyez le truc, le pot là, le truc énorme là, et puis je le vois transporter le machin. Parce que là, le pot, quand Élisée dit, quand il y a de la nourriture, le pot il était constamment sur le feu. Mais quand Élisée dit à son serviteur d'aller chercher le pot, c'est qu'il n'y était plus. Ils n'avaient tellement plus rien à manger qu'à quoi ça servait de laisser le pot installé sur le feu? Il n'y a plus rien à manger. Et là, Élisée dit à son serviteur, va chercher le pot. Et le serviteur s'exécute, il prend le pot et il l'amène. Et je suis sûr que les bébés prophètes étaient là un peu dubitatifs. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et je vois le serviteur en train de prendre le pot, l'amener. Et puis comme c'est énorme comme casserole, vous savez, il a dû faire plusieurs allers-retours pour aller chercher de l'eau, et un seau, et deux seaux, et trois seaux. Et les bébés prophètes devaient être là en train de se dire, « Et tu vas mettre quoi maintenant dedans ?» À mon avis, ils ont dû attendre longtemps. Ils ont dû attendre très longtemps que le prophète mette enfin de quoi faire un bouillon, un morceau de viande, de la salade, peu importe, quelque chose. Ils ont tellement attendu que, à mon avis, ils n'ont jamais vu le prophète mettre quoi que ce soit. Et très honnêtement, je vais vous dire ce que je pense. Le prophète n'avait pas prévu de mettre quoi que ce soit dedans. Aussi, la casserole était remplie d'eau, avec rien dedans. Et je vais vous expliquer le fond de ma pensée, et c'est ma conviction ce matin, c'est que Élisée n'avait pas l'intention de mettre quoi que ce soit dans le pot parce qu'il s'attendait au miracle. Et tout à l'heure, j'ai parlé de Jésus qui a changé l'eau en vin. Ma conviction, ce jour-là, c'est qu'Élisée avait prévu de changer par la grâce de Dieu l'eau qui bout en soupe. Oui, c'était le projet, parce qu'Élisée était un homme de Dieu. Et rappelez-vous, quelques passages avant, la femme, cette femme qui avait perdu son mari, qui se retrouvait avec ses deux enfants, Dieu avait été capable de faire sortir de ce pot d'huile une quantité extraordinaire d'huile de façon à ce que cette femme puisse financer et payer ses dettes. Alors qu'est-ce que c'était pour cet homme de Dieu de voir de l'eau transformée en soupe? C'était rien. Aussi ce jour-là, Élisée, il est dans l'attente de voir la gloire de Dieu. Il n'attend pas que le bouillon se fasse parce qu'on allait y mettre des choses. Non, il s'attendait à ce que Dieu fasse un miracle dans ce pot. Vous pouvez dire amen à ça, moi je trouve ça extraordinaire. Aussi, les bébés prophètes vont attendre longtemps. Parce que l'intention n'était pas de transformer cette eau en bouillon, non. L'intention d'Élisée, c'était de voir la gloire se manifester dans ce pot. Aussi, ce matin, j'ai plusieurs vérités à vous dire. Et je vais répondre à ma première interrogation. Où est ta bénédiction? Alors que tu vis la famine, ma réponse, elle est là. Nous allons vivre la famine, mes frères et sœurs. Quand bien même tu te trouves dans Canaan, quand bien même tu te trouves dans le plan de Dieu, quand bien même tu marches à la suite de Dieu, j'ai envie de te dire, arrêtons de nous voiler la face, nous vivrons la famine. La vérité est ailleurs, c'est que Dieu non seulement permet que nous vivions la famine, mais c'est pour voir sa manifestation et sa puissance. Souvent je me suis interrogé parce que souvent nous voulons vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Mais si tu n'es pas malade, comment tu veux voir Dieu guérir? Mais si tu n'es pas dans le besoin, comment veux-tu voir Dieu pourvoir? Si tu n'es pas en danger, comment si tu ne veux pas vivre le danger, comment vas-tu voir la protection divine sur ta vie? Ouais? Si tu n'es pas affamé, comment verras-tu Dieu pourvoir à ta faim? Et c'est ce qui se passe dans ce texte. Et il est une vérité absolue que nous devons saisir. Quand bien même nous sommes à Canaan, Dieu a prévu de nous faire passer par la famine pour que nous voyons sa gloire. Et Dieu, et c'est quelque chose que je laisse sur ton cœur alors que tu vis la famine, Dieu a prévu le pot. Dieu a prévu le pot d'où sortira la vie et l'abondance. Seulement ce pot, c'est le miraculeux. Oui ? Dieu a prévu un pot d'où sortira la vie et l'abondance, c'est son miraculeux. Car Canaan, malgré la famine, reste une terre d'abondance. Si tu décides de vivre selon la marche à laquelle Dieu t'appelle. Un petit texte pour vous, tellement court. Hébreux chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Il est étrange qu'en tant qu'enfant de Dieu chrétien, nous oublions cette réalité à laquelle Dieu nous appelle. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Aussi, quand Dieu permet que nous traversions des circonstances qui peuvent s'apparenter en effet à la famine, fais-lui confiance. Sois comme le serviteur d'Élisée, qui à un moment donné va faire confiance à la parole de Dieu quand celui-ci l'invite à prendre la marmite, à prendre le pot, à le poser sur le feu, à remplir cette marmite d'eau, parce que Dieu a prévu de faire sortir de ce pot plein d'eau qui boue la vie, l'abondance, la nourriture dont tu as besoin dans ta famine. Il l'a prévu. Alors, il nous faut rentrer dans cette dimension spirituelle de ce serviteur qui va faire un acte de foi extraordinaire, un pas de foi, alors qu'il y est dans la famine, alors que la seule chose qui touche, c'est un pot et de l'eau. Dieu va faire et pourvoir. Maintenant, ne soyons pas comme l'autre. Et je dis l'autre à juste terme, parce que, à juste titre, parce que nous voyons en effet ce serviteur qui va obéir à la volonté de Dieu, mais il y a l'autre. Vous savez, il y a toujours l'autre. Et l'autre, ben c'est l'un des fils des prophètes, parce que la marche de la foi, ce n'est pas si simple. Un des fils des prophètes va voir le serviteur faire ce qu'il fait. Il prend la marmite, le pot, il met l'eau dedans. Et cet autre fils de prophète, cet autre-là, va voir le serviteur s'exécuter, jusqu'au moment où il va bien comprendre que ben, y a rien dedans. Et puis, pour s'en assurer, peut-être cet autre-là va aller auprès de la marmite, parce qu'il avait besoin de voir par ses yeux, et puis il va se rendre compte que l'eau boue, et qu'il voit le fond de la marmite. Vous savez, c'est jamais très bon quand on voit le fond. Hein. Et je me suis mis à la place de ce gars en train de se dire, on va pas quand même boire de l'eau bouillie, non? On va peut-être... Ouais. Et si on mettait un peu de sel dedans? Parce que quelque part, moi, c'est ce que j'aurais fait. On parle de bouillon, on parle de soupe. J'ai faim, j'ai envie d'y croire. Seulement quand je m'approche de la marmite et que je me rends compte que c'est que de l'eau qui bout, on a envie de peut-être aider le prophète à faire un vrai bouillon. C'est jamais. Et c'est ce qui va se passer. Regardez le texte suivant. Deux Rois, chapitre 4, verset 39. L'un d'eux, l'autre, sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquins sauvages. Plein son vêtement. C'est vous dire si l'eau, il n'y avait rien dedans. Hein. Donc il voit grand, il sait qu'ils sont une centaine, il voit plein de coloquins, il en prend, enfin ils sont une centaine. Donc il faut une soupe assez consistante, quitte à faire une purée à la limite. Mais bref, il en prend beaucoup. Et moi je vois là-dedans, il veut bien faire ce gars. Il veut bien faire parce qu'il se rend compte d'un truc, c'est que tout le monde va mourir de faim avec la soupe que le prophète est en train de préparer. Il n'y a rien dedans, c'est de l'eau qui boue. Alors il se dit, bon, on va bien faire, on va aller chercher plein de coloquintes. Seulement lui, pour lui, c'est comme une courge, c'est un concombre, bref, pour lui, c'est quelque chose qui est mangeable. Alors, il fait bien les choses, il dit, ouais, je vais bien faire les choses. Il en ramène plein ses vêtements, c'est ce que dit le texte. Et quand il rentre, il fait bien les choses, il les coupe. À la maison, je suis le spécialiste de la ratatouille. Et vraiment, ça prend du temps de couper des légumes. Et on est quatre à la maison, donc je les coupe, et puis, mais ça prend du temps. Mais imaginez une centaine de personnes à nourrir. Et j'imagine le nombre de coloquins qu'il avait et le temps qu'il a passé à couper les choses. Il a bien fait les choses. Il s'est attelé au boulot. Il a dit, ouais, j'ai fait ça bien. Et une fois qu'il a tout coupé, il s'approche de la marmite qui est vide, hein, qui est plein d'eau qui boue. Et allez, on y va. Et il met tout ça dedans. Vous savez, l'une des choses qui est le plus compliquée dans la marche de la foi, c'est de laisser Dieu faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est compliqué. Lorsqu'on est comme semblable à ce prophète, à ce bébé prophète qui s'avance auprès de la marmite là et qui voit l'eau qui bout. Et puis qui regarde et qui se dit, mais il ne va pas se passer quelque chose là? Ça serait cool que... Un truc quoi. Un peu d'herbe. Et là, Dieu nous dit, non, touche pas. Et on est tellement semblable à l'autre en fait. Parce que l'autre, c'est nous. L'autre, c'est nous. Nous sommes dans un apprentissage. Cet apprentissage, à un moment donné, nous amène à vivre quelque chose d'extrêmement frustrant. C'est d'être auprès de cette marmite qui est censée nourrir des centaines de personnes et être devant et s'apercevoir que c'est que de l'eau qui boue. Oui, parce que Dieu nous amène à vivre ça. La marche de la foi, c'est accepter qu'à un moment donné, on regarde simplement l'eau qui boue. Mais qu'est-ce que c'est frustrant ! Qu'est-ce que c'est frustrant, parce qu'à un moment donné, on a envie de mettre du sel, on a envie de mettre du poivre, on a envie d'aller chercher des herbes, on a envie de faire quelque chose, parce que là, on se dit, mais c'est pas possible, on va pas servir de l'eau bouillie. Et on devient comme ce prophète, ce bébé prophète qui est dans l'apprentissage de la marche de la foi et qui se dit, on va aider le Seigneur. Que c'est dur de regarder de l'eau qui boue. Que c'est dur quand on est là et qu'on se dit, mais on pourrait faire quelque chose là, peut-être. Et on y va, et on va dans les champs, et on essaie de trouver des solutions humaines. On essaie de trouver une solution à notre eau qui boue, parce que là, c'est juste pas possible. Alors lui, il partait chercher des herbes, mais au final, il va recueillir des coloquintes. Combien de coloquintes j'ai ramassé? Combien de coloquintes j'ai mis dans le pot du miracle de Dieu? Combien de fois par mon impatience? Combien de fois par ma peur, mon inquiétude, mon manque de foi, ma précipitation? J'ai amené un truc. Je dis un truc dans ce que Dieu était en train de préparer pour moi. Combien de fois j'ai essayé d'aider Dieu alors qu'il me disait « Laisse-moi faire ». Et dans ce pot du miraculeux que Dieu a prévu dans ma période de famine, c'est moi qui ai mis les coloquintes dans l'eau. Texte suivant. Encore un, s'il te plaît. Deux Rois, chapitre 4, verset 40. Alors que ce gars pense avoir bien fait, parce qu'on pense toujours bien faire, mes frères et sœurs. Alors que ce gars pense avoir bien fait, on servit à manger à ces hommes, à ces fils de prophètes, à ces bébés prophètes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. Ô homme de Dieu, et ils ne purent manger. Vous savez, ce qu'il y a de tragique, malgré notre bonne volonté à aider le Seigneur, ce que l'on fait, c'est que là où Dieu a prévu la vie, nous y mettons la mort. C'est nous qui y mettons la mort. Et vous savez, peut-être cet homme a dû remercier Dieu que son nom n'apparaisse pas dans la Bible. Peut-être qu'il ne serait plus au milieu de nous, ou il n'aurait passé un trépas là. Mais je me suis imaginé le sentiment de cet homme, et permettez-moi d'être très sérieux là, le sentiment de cet homme, lorsqu'il s'est aperçu que le bouillon, il y avait introduit lui-même la mort. Un sentiment qui peut parcourir nos esprits alors que nous sommes dans la famine, que Dieu met devant nous un pot et que nous n'attendons pas que la magie ou, excusez-moi, le miracle de Dieu s'accomplisse. Quand nous sommes pressés, lorsque nous doutons, lorsque nous voyons les événements se suivre, lorsque la faim est là, la précipitation, l'inquiétude, et que nous allons chercher les colicandes et que nous les mettons dans le pot, et qu'au final, nous nous rendons compte qu'au lieu d'amener la vie, nous apportons la mort. Quel sentiment est en nous? Quelle phrase se répète dans nos cœurs? J'ai tout gâché. J'ai tout gâché. Le pot qui était censé amener la vie a fini par amener la mort. Et la mort n'est pas venue parce qu'il y a une circonstance particulière. Non, c'est parce que c'est moi qui l'y ai mise. Parce que je n'ai pas attendu. Parce que je n'ai pas fait ce que Dieu m'avait dit. Parce que j'ai été trop pressé. Parce que je n'ai pas attendu que le miracle s'accomplisse. Alors moi, en essayant d'aider Dieu, au lieu d'arranger les choses, au lieu d'attendre que le miracle s'accomplisse, au lieu de voir la vie apparaître dans ce pot, j'ai pris les devants. J'ai mis mon sel. J'ai mis ma sauce. Et au lieu d'amener la vie, j'ai amené la mort aussi ce matin. Il y en a plein au milieu de nous qui ont ce sentiment d'avoir tout gâché. J'ai tout gâché. Tellement dur de vivre avec ce sentiment, tellement dur d'avoir le sentiment d'avoir fait ce qu'il ne fallait pas, tout en pensant réellement qu'on faisait ce qu'il y avait de meilleur. Maintenant, j'aimerais revenir à ce que je disais au départ. Parce que on ne peut pas vivre avec ce sentiment d'avoir tout gâché. Et le texte de départ et ma réflexion de départ et conditionne tout ça parce que le ministère d'Élisée, et j'ai pris le temps de l'exprimer, n'est pas un ministère de condamnation ou de jugement. Le ministère d'Élisée est une manifestation prophétique du ministère de Jésus. Et si Élie, celui qui est venu avant Élisée à condamner, à juger. Le ministère d'Élisée est venu avec une autre approche, une autre direction, une autre sensibilité que moi j'appelle le ministère de la grâce, du pardon et de la restauration. Et ce matin, on peut venir avec le sentiment de dire ce matin, j'ai tout gâché. Dans ma famine, tu avais prévu le pot, et parce que j'ai pas attendu, parce que j'ai précipité les choses, j'ai mis des coloquins dans le pot. Et parce que j'ai mis des coloquins dans le pot, tout a dégénéré. C'est pas la vie que j'ai trouvée, c'est la mort. Et le sentiment de culpabilité qui est en toi ce matin de dire, j'ai tout gâché. Maintenant, ce que j'aime dans le ministère d'Élisée, et si ça avait été Élie, ça aurait été tout autre chose, mais le ministère d'Élie, d'Élisée, cet homme qui est cette image de Christ, qui voit que la mort est dans le pot. Regardez ce qu'Élisée va faire, c'est juste magnifique. Élisée dit, prenez de la farine. Je suis encore en train de me poser la question d'où ils ont sorti la farine. Je ferme la parenthèse. Il en jeta dans le pot et dit, serre à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien mauvais dans le pot. Voyez le ministère de la grâce là. Voyez le ministère de la miséricorde. Et tu viens peut-être avec le sentiment d'avoir tout gâché, d'avoir mis toi-même la mort dans le pot. Mais ce que j'aime dans le ministère d'Élisée, comme on le retrouve dans le ministère de Christ, c'est un ministère de miséricorde, un ministère de pardon. Et là où toi tu as tout gâché, Dieu a décidé que ce pot contenant la mort allez maintenant contenir la vie. Et j'aimerais te dire aussi autre chose, parce que dès le départ, Élisée avait décidé de faire de ce pot un pot de vie. Souvent, lorsqu'on te prêche sur ce texte, le titre phare, c'est « La mort est dans le pot ». Faux! Dès le départ, Élisée avait dans la pensée que ce pot plein d'eau allait voir la vie jaillir. C'était le projet de Dieu. C'était ce que Dieu avait décidé dès le départ. Et par moments, parce qu'on n'attend pas, parce qu'on est trop pressé, oui, on finit par mettre la mort dedans, mais l'amour de Christ surpasse tout ça. Et là où nous y mettons la mort, le plan de Dieu en décide autrement, parce que Dieu a décidé que la vie était dans ce pot. Aussi, de ce pot, la mort ne peut en jaillir, car Dieu a décidé que la vie devait sortir de ce pot. Alors oui, Élisée va prendre de la farine, va en jeter dans le pot. Et de ce pot où il y avait la mort, Dieu en a fait jaillir la vie. J'aimerais laisser sur ton cœur un texte juste extraordinaire. Si Dieu a décidé dès le départ que de ce pot devait jaillir la vie, personne ne pourra empêcher l'œuvre de l'Éternel. Et si de ce pot il y a la mort, Dieu en a décidé autrement. C'est la vie qui va en sortir. Apocalypse chapitre 3 verset 8, on connaît ce texte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Vous connaissez la suite ? Que personne ne peut fermer. Des fois, on a le sentiment d'avoir tout gâché. On a le sentiment d'avoir fermé la porte que Dieu nous avait ouverte. Et on a le sentiment de dire, « Ah Seigneur, j'ai tout gâché. » Seulement le texte dit, « Si Dieu ouvre une porte devant toi, personne ne peut la fermer. Même toi !» Même toi qui as le sentiment d'avoir tout gâché, Dieu te dit que tu n'as pas le pouvoir de fermer la porte que Dieu a ouverte devant toi. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le ministère d'Élisée, alors que peut-être cet homme culpabilise de dire « J'ai tout gâché ». Dieu est en train de réparer les choses. Dieu est en train de mettre la farine, en train de sanctifier. Et ce matin, Dieu veut sanctifier ton pot. Dieu va sanctifier ton pot. Il va intervenir d'une manière puissante. Il va sanctifier le pot. Aussi, si aujourd'hui tu as le sentiment d'avoir tout gâché, d'avoir mis la mort dans le pot, Dieu est capable de mettre la vie dedans. Car Dieu a des projets de vie et non de mort. On va courber nos fronts quelques instants. Je voudrais faire un court appel. Ce matin, Dieu veut t'amener à réaliser que dans ta famine, il a prévu le pot d'abondance, de bénédiction. Et ce pot d'abondance et de bénédiction ne doit pas arriver par un chemin conventionnel, non. Parce que Dieu t'appelle à marcher par la foi. Aussi, saisis bien les paroles, marcher par la foi. C'est aussi croire qu'à un moment donné, ce n'est pas le chemin conventionnel que Dieu va utiliser pour t'amener à vivre l'abondance de Canaan dans lequel tu es. C'est un chemin miraculeux. Oui, le pot qui est devant toi, le pot que Dieu va mettre devant toi, et le pot d'abondance dont tu auras besoin dans ta famine. Et Dieu l'a prévu, ce pot. Et il va te le donner en son temps. Comme Élisée va venir à Gilgal, il va préparer ce pot pour ses bébés prophètes. Et Dieu va faire sortir de ce pot d'eau qui boue la vie. Peut-être ce matin, tu vis la famine et tu ne comprends pas cette famine que tu vis. Maintenant, Dieu est en train de mettre en place le pot. Le pot d'où jaillira la vie, l'abondance et la bénédiction. Dans la famine qui t'entoure, dans la famine que tu vis, Dieu, dans la marche de la foi par laquelle il te fait passer, va te faire vivre le miraculeux. Et ce matin, c'est à toi déjà que je m'adresse, mon frère, ma soeur, qui est dans la famine. Et je voudrais juste t'inviter à te lever, juste pour dire, Seigneur, j'attends ton pot. J'attends ta bénédiction, j'attends la source de vie, j'attends ton secours avec impatience. Je l'ai dit ce matin, tu peux vivre dans Canaan et vivre la famine. Il n'y a rien d'illogique à ça. Maintenant, il y a une dimension dans laquelle Dieu t'appelle, c'est d'être ce serviteur qui, ne voyant pas de nourriture, décide de préparer le feu, décide d'aller chercher le pot, de le mettre sur le feu, de remplir la casserole d'eau. C'est ce que Dieu t'appelle à faire. Il y a un pas de foi. Et ce pas de foi, il t'appartient. Il t'appartient de devenir ce serviteur qui va avoir confiance en Dieu, qui va mettre son espérance en Dieu malgré la famine spirituelle dans laquelle tu es. Le pas de foi de dire « Seigneur, qui a rien à manger. Mais je veux croire que tu vas préparer un pot d'abondance pour ma vie, au travers duquel tu vas faire jaillir les bénédictions. Miraculeusement, parce que mon juste vivra par la foi. Aussi par la foi, je veux vivre. Maintenant, il y a peut-être quelque chose d'autre que tu as fait ce matin. Quelque chose qui te trouble et qui t'a troublé parce que tu n'as pas été comme le serviteur d'Élisée. Non. Tu as été comme ce fils de prophète, l'autre. Comme j'ai été l'autre dans ma vie. Mais combien de fois j'ai pu être l'autre? Et pardon Seigneur d'avoir douté. Pardon Seigneur d'avoir précipité les choses. Pardon Seigneur d'avoir mis mon sel dans ton pot. Pardon Seigneur de ne pas avoir eu confiance. Pardon Seigneur d'avoir tout gâché. Et tu viens ce matin avec ce sentiment-là lourd dans ton cœur. J'ai tout gâché. Ce matin, celui qui est dans ce lieu, ce n'est pas celui qui condamne, mais c'est celui qui veut te chercher, qui veut te sauver. Ce n'est pas celui qui veut mettre en avant ton erreur et qui veut te condamner, qui veut te dire débrouille-toi avec Jésus. Jésus, comme l'image de ce prophète Élisée, rempli de grâce, rempli de bonté, rempli de miséricorde, va changer ce que tu as gâché en une source de vie. Alors ce matin, si tu as le sentiment d'avoir gâché, Dieu veut te pardonner. Et cet appel que je veux laisser sur ton cœur, lève-toi. Lève-toi si tu as le sentiment d'avoir tout gâché. Lève-toi. Parce que Dieu veut te pardonner ce matin. Parce que Dieu veut restaurer. Parce que Dieu, à l'image d'Élisée, Jésus à l'image d'Élisée, est en train de répandre sur le pot où il y a la mort, la farine de la vie. Il est en train de purifier ce que tu as gâché. Il est en train de purifier ce qui a été loupé. Parce que Dieu est suffisamment bon, miséricordieux, pour te laisser une autre chance. Pour transformer le pot de la mort en un pot de vie. Pour transformer ce qui est gâché en quelque chose où il y a la vie. Pour transformer ce que tu as détruit en une source de vie et de bénédiction. Tu as gâché, mais Jésus le Rédempteur vient payer ta dette et vient couvrir le pot de la mort, de sa sainteté, de son sang. Purifie le pot où il y a la mort pour qu'il y ait maintenant la vie. Saint-Esprit est en train de passer au milieu de nous. Et maintenant, je vais simplement prier, mon Dieu, mon Père, à l'image d'Élisée. Il y a un plan de rédemption, il y a un plan de salut, il y a un plan de restauration. Il y a un plan de délivrance, mais il y a aussi un pot de vie dans celui qui vit la famine. Et je prie pour que ce pot de vie, ce pot que tu as préparé pour les temps de famine, apparaisse et devienne cette abondance, cette bénédiction pour celui qui est ton enfant, qui est dans Canaan et qui vit la famine spirituelle. Dieu a prévu un pot dans ta famine. Maintenant, je veux prendre aussi le temps de prier pour mon frère et ma sœur qui a le sentiment d'avoir tout gâché. Ce pot, tu l'as gâché. C'est toi qui es allé chercher les coloquintes. C'est toi qui, pensant bien faire, les a coupés, les a préparés, les a mis dans la soupe. Et cette soupe qui était censée être la vie est devenue la mort. Et tu vis avec cette culpabilité en toi. Tu as tout gâché. Maintenant, à l'image d'Élisée, qui a pris de la farine et l'a versée dans ce pot où il y avait la mort. Jésus est en train de passer. Dépose sa farine sur ton pot afin que la vie soit présente maintenant. Alors au nom de Jésus, je prie pour que ce Dieu de restauration, pour que ce Dieu de miséricorde, ce Jésus de grâce, vienne dans ta vie. Dépose la farine, dépose son sang sur ta vie. Recouvre ce qui a été gâché. Pour que là où il y a la mort, maintenant il y a la vie au nom de Jésus. Et je proclame la vie. Et là où il y a la mort, je proclame la vie au nom de Jésus. Je proclame la délivrance. Je proclame le pardon. Je proclame la restauration sur ta vie. Je proclame la puissance du Saint-Esprit maintenant agissant sur toi. Te renouvelons, te restaurons maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu.